Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 28 novembre, partagez la route. Le gouvernement veut tripler nos trajets en covoiturage, non pas la semaine prochaine, mais en 2024. Et les conducteurs solos seront à l'avenir contrôlés. Une plainte pour homicide involontaire contre le SAMU de Belfort. Une femme de 62 ans est décédée d'un infarctus. Les secours ont mis une heure à venir. Le procès en appel de Mgr Barbarin pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat. « J'ai fait ce que je devais faire », a-t-il redit ce matin devant le tribunal correctionnel de Lyon. Dans RTL Midi aussi, l'appel à la vigilance du ministre de l'Intérieur face à la radicalisation. Nous verrons comment la ville de Stains en Seine-Saint-Denis s'y prend pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles. Et puis nous vous présenterons à la fin de ce journal un calendrier de l'Avent anti-arnaque. La météo, bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Encore de bonnes petites rincées.
Ah, c'est encore très instable, ciel très changeant cet après-midi sur l'ensemble du pays avec de fréquentes averses. Toujours un vent modéré et toujours une petite tendance orageuse. Ce sera même très instable sur la côte atlantique. Et puis nous avons une nouvelle dégradation pluvieuse qui s'amorce au nord de la Seine. Les températures pour cet après-midi encore assez douces avant un très net refroidissement prévu à partir de ce week-end. 10 degrés, ce sera le minimum cet après-midi à Aurillac, 12 à Lille, Brest et Limoges, 13 à Paris, 14 à La Rochelle, 15 à Bordeaux, 17 à Nîmes et jusqu'à 19 degrés à Bastia.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la grève du 5 décembre. Avez-vous déjà pris vos précautions? Vous êtes très partagé, 46% de non, 41% de oui. On attend vos témoignages au 3210 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, et vous l'avez dit, c'est un nouveau drame qui ne manquera pas de vous faire réagir au 3210. Le 14 septembre, une femme est décédée d'un infarctus. Elle avait appelé le SAMU à 5 reprises. Si vous travaillez au SAMU, racontez-nous comment s'effectue la prise en charge. Vous avez peut-être déjà appelé le 15. Venez témoigner au 3210. Le procès en appel du cardinal Barbarin s'est ouvert à Lyon. Vous pourrez réagir. La grève du 5 décembre, vous l'avez dit. Voici les sujets que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez intervenir. Où tout est possible, comme toujours.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Y a-t-il eu homicide involontaire? En septembre dernier, à Belfort, une femme de 62 ans est décédée d'un infarctus alors que ses proches ont appelé 5 fois le SAMU. La famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger. Elle a donc été requalifiée. Yann Bouchery, l'ambulance a mis 40 minutes à venir, le SAMU, une heure.
Oui, une réaction plus rapide et un diagnostic plus juste aurait-il permis à Edith Greffier de s'en sortir? Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui. Le 14 septembre dernier, cette sexagénaire se sent mal et sa fille appelle le 15. Elle précise à l'opératrice située à Besançon, à 90 km, que sa mère a des douleurs au bras, du mal à respirer et souffre d'hypertension. Elle est mise ensuite en relation avec la médecin régulatrice, à qui elle redécrit les symptômes accompagnés de vomissements.
La douleur du bras gauche, elle la sent toujours?
Oui, toujours. Et elle est toute blanche.
Oui, elle vient de vomir, ça c'est pour ça. Eh ben, écoutez, on va la voir, hein, puisqu'elle se sent pas bien. Il y a beaucoup de gastro en ce moment. Donc, il y a une ambulance qui va venir la prendre, hein, qui sera là dans l'heure qui vient.
Mais l'état de la retraitée se dégrade. Sa fille rappelle le 15, prise de panique car sa maman ne respire plus. Les ambulanciers arrivés sur place vont parvenir à la réanimer. Le SAMU la transporte ensuite à l'hôpital de Trévenans, près de Belfort, où elle décède finalement d'une crise cardiaque. La famille a porté plainte pour non-assistance à personne en danger, une plainte requalifiée par la police en homicide involontaire.
Récit Yann Bouchery. Pour aller plus loin, nous sommes avec le docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France. Bonjour.
Bonjour.
Une plainte a donc été déposée après ce drame pour homicide involontaire. Ça vous paraît justifié?
C'est difficile. L'homicide involontaire veut dire qu'il y a une intention, d'après ce que je comprends. Donc ça semble effectivement un petit peu étonnant, la requalification, bien sûr.
Cette femme qui appelle le SAMU explique que sa maman vomit, qu'elle fait de l'hypertension, qu'elle a mal au bras gauche. On a le sentiment que les médecins, on l'a entendu, ne pensent qu'à une gastro. Est-ce que selon vous, il y a une erreur de diagnostic?
Là, c'est aussi très difficile de se prononcer. Il va y avoir une expertise et c'est bien qu'il y ait une expertise judiciaire qui soit faite sur cet appel pour que l'expert puisse juger avec les éléments. C'est certain que, vu l'évolution dramatique de cette affaire, on ne peut que que craindre qu'il y ait eu défaillance au niveau de la régulation médicale. Mais en tout cas, ce qu'il faut relever, c'est que les procédures ont été bien respectées avec le passage à un médecin, que le médecin a fait son interrogatoire pendant plusieurs questions et qu'à l'issue de cet interrogatoire, il a pris une décision qui était d'engager une ambulance immédiatement. Donc, il va falloir reprendre les choses dans l'ordre avec une analyse bien en fonction du temps et l'expert nous dira ce qu'il pense de cette régulation médicale. Le diagnostic d'infarctus sur des douleurs qui ne sont pas thoraciques, qui sont plutôt avec symptomatologie abdominale, existe bien sûr, mais reste un diagnostic très difficile.
Alors, on se souvient évidemment du drame de Naomi Moussenga, cette jeune femme qui était morte à Strasbourg il y a presque 2 ans. Le SAMU s'était moqué d'elle alors qu'elle avait très mal au ventre. Qu'est-ce qui a changé depuis, François Braun ?
Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis cette affaire dramatique de Strasbourg. Déjà, une formation des assistants de régulation médicale, puisque le problème était au niveau assistant de régulation médicale, très nettement à Strasbourg. Une formation maintenant d'un an, de presque 1500 heures de formation, alors qu'avant, c'était des formations un petit peu locales et beaucoup moins bien construites. Maintenant, des formations avec de la simulation. Bref, une véritable formation au métier d'assistant de régulation médicale, qui n'est pas un métier de simplement décrocher téléphonique, qui est beaucoup plus précis que cela.
Oui, et qui donne lieu à un diplôme désormais.
Voilà, qui donne lieu à un diplôme, une vraie reconnaissance, des procédures qui ont été modifiées, des procédures qualité qui ont été validées, que SAMU Urgence de France a fait valider au niveau national, qui sont travaillées avec la Haute Autorité de Santé. Donc oui, nous n'arrêtons pas d'améliorer la situation, d'essayer d'améliorer la qualité de cette réponse qui est la colonne vertébrale de notre organisation du système de soins d'urgence en France.
J'aimerais qu'on parle des secours aussi par rapport à ce qui s'est passé à Belfort. Comment expliquez-vous que les secours arrivent aussi tard, on disait 40 minutes pour l'ambulance, 1 heure pour le SAMU. Est-ce qu'il y a encore des problèmes de coordination au niveau des secours? Parce qu'on en a beaucoup parlé de ça.
Oui, alors au niveau de l'ambulance, il va falloir regarder un peu de près ce qui s'est passé. La décision de l'ambulance...
Ah, on est en train de vous perdre, François Braun, est-ce que vous nous entendez? Oui.
Oui, je vous entends. Oui, pardon. Je vous disais
finir.
Que la décision d'engager une ambulance a été faite dès le premier appel. La décision d'engager un SMUR a été faite dès qu'il y a eu des critères de gravité, en particulier d'arrêt cardiaque. Le SMUR est loin. Il lui faut du temps pour arriver. Il ne peut pas être là immédiatement. Ces équipes de réanimation, il n'y en a pas partout. Il n'y en a probablement pas assez au niveau du territoire national. Et on a encore trop de secteurs au niveau de la France même métropolitaine qui sont à plus de 30 minutes de nos équipes de réanimation. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour augmenter ce nombre d'équipes qui sont des équipes très spécialisées, mais qu'on ne peut pas malheureusement mettre derrière chaque maison.
Merci beaucoup, Dr Braun, président de SAMU Urgence de France, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Il est arrivé impassible devant une nuée de journalistes au palais de justice de Lyon. Le cardinal Barbarin est jugé en appel pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis par le père Prénat qui exerçait dans son diocèse. Il avait été condamné en première instance à 6 mois de prison avec sursis pour un silence coupable. Frédéric Perruche, vous êtes à l'audience pour RTL et il campe sur ses positions.
Oui, dès les premiers mots du cardinal Barbarin, le ton est donné. J'ai fait appel car je ne comprends pas en quoi je suis coupable. Pour quel fait? Plutôt serein à la barre d'une voix claire, l'archevêque va même plus loin et explique qu'il a fait son devoir et au-delà, en sanctionnant le père Prénat en 2015 plus sévèrement que ce que préconisait le Vatican en le privant de tout ministère. J'ai appris les agissements pervers de Prénat en novembre 2014, se justifie-t-il. Avant, c'était des rumeurs, des trucs sur des faits anciens. Mais ce jour-là, Alexandre Aizé m'explique tout, me raconte en détail les horreurs qu'il a subies. Les faits sont prescrits, me dit-il, mais je l'incite à porter plainte, à trouver d'autres victimes plus jeunes. Moi, j'alerte Rome, mais porter plainte, dénoncer ces faits à la justice, non, ni Alexandre ni moi ne l'avons évoqué. Philippe Barbarin semble se poser en victime, en bouc émissaire, il lâche même à la barre. Vous savez, un des plaignants m'a même dit « je porte plainte contre vous car je ne peux pas le faire contre mon père qui savait tout dès le début et qui n'a rien dit ».
Frédéric Perruche en direct du Palais de Justice de Lyon pour RTL. Dans un instant, on prend la route, mais on évite de voyager seul.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Vive le covoiturage. Vous allez d'ailleurs pouvoir l'expérimenter jeudi prochain à l'occasion de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. En attendant, et c'est paraît-il un hasard du calendrier, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, et Jean-Baptiste Djebbari, qui s'occupe des transports, ont présenté ce matin leur feuille de route. L'idée, c'est de tripler les trajets en covoiturage d'ici 2024 et de faire du conducteur solo, Arnaud Touche, une espèce en voie de disparition.
Oui, pour cela, le gouvernement gouvernement va notamment s'appuyer sur des voies réservées au covoiturage dès l'année prochaine. Des expérimentations auront lieu sur la 48 à Grenoble, la 7 à Marseille et la 15 en Île-de-France. Et dès 2021, pour faire respecter ces voies, Elisabeth Borne plaide pour la manière forte. Des capteurs détecteront le nombre de passagers à bord des voitures.
C'est des dispositifs de contrôle-sanction automatisés. Vous savez qu'on a expérimenté des dispositifs pour reconnaître par infrarouge le nombre de passagers dans les voitures. Et l'objectif, c'est de mettre en place effectivement un contrôle-sanction automatisé.
Et l'objectif est que près de 10% des trajets domicile-travail se fassent en covoiturage d'ici 2024. Actuellement, ce chiffre est de 3%. Voilà pourquoi la ministre souhaite aller rapidement.
Ça permet aux gens de sortir des embouteillages dans lesquels ils sont coincés le matin grâce à nos voies réservées. C'est bon pour la planète. On divise par deux les émissions de gaz à effet de serre quand on est deux plutôt que tout seul dans sa voiture. Puis c'est bon pour le pouvoir d'achat. Pour quelqu'un qui fait 30 km aller-retour, s'il le fait en covoiturage, ça peut être jusqu'à 2000 euros d'économie par an.
Enfin, dès l'année prochaine, les employeurs pourront verser jusqu'à 400 euros par an aux salariés qui choisissent le covoiturage ou le vélo pour se rendre au travail.
Quant aux piétons, la RATP prévoit un trafic fortement perturbé à partir du 5 décembre, date du début à l'appel à la grève illimitée lancée par trois syndicats. Elle promet des prévisions de trafic dès mardi prochain, la diffusion de messages dans les stations et l'envoi de courriels et de SMS. À la SNCF, sachez que les billets TGV Inouï, Ouigo et Intercité sont fermés à la vente du 5 au 8 décembre. Et ce pour favoriser les clients qui ont déjà un billet et dont les trains pourraient être annulés. L'hydre islamiste. Emmanuel Macron avait utilisé ces mots dans l'émotion de l'attentat à la préfecture de police de Paris fin septembre. Aujourd'hui, l'ensemble des préfets sont reçus au ministère de l'Intérieur pour leur apprendre à repérer les signaux faibles de radicalisation. Et Christophe Castaner a lancé ce matin une offensive républicaine contre le repli communautaire.
Je ne peux accepter qu'il y ait des endroits en France où l'on combat la République, qu'il y ait des rues, voire des quartiers, où notre devise, liberté, égalité, fraternité, et j'y ajoute la laïcité, soit regardée avec hostilité. Je vous demande la plus grande vigilance. Et si des manquements sont établis, je vous demande de décider des fermetures administratives, sans hésiter. Je pense au débit de boissons, qui deviennent des lieux de rassemblement islamiste. Je pense à certains lieux de culte, à certaines écoles, à certains centres culturels ou sportifs, qui se transforment en incubateurs de haine. Vous êtes au contact de ces zones où la République est contestée, où la République a reculé. Je compte sur vous pour mener cette offensive républicaine.
Christophe Castaner au micro d'Olivier Bois. Alors comment nos élus font-ils face? Nous sommes avec Azzedine Taibi, maire communiste de Stains en Seine-Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous diriez, comme Christophe Castaner à l'instant, que la République a reculé dans certains endroits?
Oui, non seulement elle a reculé dans certains endroits, et en particulier dans les quartiers populaires, je dirais même qu'elle a souvent abandonné les quartiers populaires et les habitants. Donc certainement qu'une des manières de combattre la radicalisation, et d'ailleurs toutes les formes de radicalisation, d'autant quand elle est très violente, la meilleure façon, ce serait que la République, enfin, puisse, je dirais, s'adresser de manière assez forte auprès des habitants des quartiers populaires. Et c'est le cas ici, c'est le cas sur Stain, par exemple, et d'une manière générale...
Racontez-nous concrètement
d'une
ce
manière
que vous
générale,
faites, vous, à Stain.
En Seine-Saint-Denis. Mmh. Alors, sur la question de la radicalisation, je serais tenté de dire que nous abordons cette question, je dirais, de manière beaucoup plus globale, parce que ce qui est vraiment important, c'est tout le travail de prévention qu'il faut mener bien en amont. Mmh. Voilà. Il ne faut pas simplement voir cet aspect des choses simplement sur l'angle sécuritaire, même si c'est en effet important, il faut que les enquêtes puissent avancer, il faut que la justice et puis la police puissent mener un certain nombre de, je dirais, d'enquêtes.
Mais vous voulez dire qu'il ne faut pas attendre, par exemple, de voir des bars interdire l'accès aux femmes pour bouger. Il faut bouger avant.
Voilà, il faut bien bouger avant. Vous citez un exemple sur les bars, mais moi je parlais d'une manière générale. Si on veut, en effet, arriver à identifier les formes de radicalisation, encore faut-il se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met derrière le thème de radicalisation. Mmh. Nous, sur Stain, on a pris à bras le corps et on a mis autour de la table tous les partenaires, la police, la justice, mais pas simplement qu'eux. On a mis aussi les services municipaux, les services du département, les associations, les collectifs qui sont vraiment vraiment sur le terrain. Et je pense que c'est important parce que ça permet justement avec les travailleurs sociaux, avec les actrices et les acteurs qui sont sur le terrain, d'identifier quand il y a en effet un risque de radicalisation.
Et quel type d'informations font-ils remonter ?
Vous savez, ce n'est pas simplement que de la formation, que des informations qu'il faut remonter. C'est de mener vraiment des actions concrètes sur le terrain, justement. Pour voilà, j'ai écouté aussi Monsieur Nunez qui parlait, qui citait la volonté de faire vivre la question du vivre ensemble dans le quartier. Oui, en effet. Mais pour le faire vivre, il faut que, de ce point de vue-là, la République justement adresse un message très fort. Adresse un message très fort, je dirais, d'égalité, adresse un message très fort de dignité, de respect dans les quartiers populaires. Mmh. Et moi, en tant que maire, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Je me bats, moi, au quotidien ici à Stein, pour que justement, si on veut réconcilier la République et si on veut faire en sorte de faire reculer la radicalisation et d'ailleurs, en l'espèce, ce qui peut se passer et se produire malheureusement depuis de nombreuses années, c'est de faire en sorte que la République reprenne. Reprenne tout son sens, reprenne le combat des quartiers populaires. Et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, avec d'autres maires, si nous avons lancé un recours contre l'État pour démontrer à quel point la rupture d'égalité était tellement forte dans nos quartiers, et on n'est pas les seuls à le dire, des parlementaires l'ont évoqué, qu'il y a une rupture d'égalité dans nos quartiers populaires en matière de justice, en matière d'éducation, en matière, de sécurité, la question, elle passe par là. C'est une question de fond. Je pense qu'il faut...
Donc vous, ce que vous nous expliquez, Monsieur Taïbi, c'est qu'il faut faire de la prévention d'abord. Et ensuite, on fait aussi remonter les informations. L'un n'empêche pas l'autre, mais d'abord, il faut travailler dans les quartiers.
La prévention, éviter de stigmatiser ou de pointer telle ou telle catégorie de population. C'est néfaste. Si on commence à pointer telle ou telle catégorie de population, bien évidemment, malheureusement, il y a des personnes qui se radicalisent. Le ministre l'a dit pas plus tard que ce matin. Il a même reconnu qu'il s'agissait d'une minorité, mais d'une infime minorité. Travaillons le collectif, travaillons à faire en sorte que les forces vives qui sont sur le terrain, les associations, les collectifs, les habitants, les partenaires, l'éducation, la justice...
Voilà,
la
que politique. Le maillage soit le plus serré possible. Merci beaucoup. Merci à Zedine Taïbi d'avoir été l'invité d'RTL Midi, maire communiste de Stein. Quant aux signes de radicalisation dans les rangs des forces de l'ordre, le secrétaire d'État Laurent Nunez a expliqué ce matin sur RTL qu'il y avait eu 70 signalements entre 2015 et cette année et une centaine d'autres depuis l'attentat de la préfecture de police de Paris. Dans un instant, on va parler de tous ceux qui sont en arrêt de travail, mais qui bossent quand même.
RTL Midi. Prix.fr. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Ils sont malades et pourtant ils vont quand même travailler. C'est le cas de 65% des salariés interrogés pour le baromètre Malakoff-Médéric Humanis. Plus intéressant encore, une fois sur quatre, ils ne respectent pas l'arrêt maladie prescrit par leur médecin. Et cette tendance au renoncement s'affirme d'année en année, Anaïs Bouissou.
Oui, c'est ce qu'on appelle le présentéisme maladie. De plus en plus de salariés sont malades, obtiennent un arrêt maladie et se forcent quand même, se traînent au travail. C'est une tendance particulièrement forte pour ceux qui ont des responsabilités d'encadrement, ceux qui gèrent des équipes, ou dans les entreprises qui ne maintiennent pas les salaires durant les 3 premiers jours d'arrêt. Dans ces cas-là, les employés préfèrent venir, même malades, plutôt que d'y perdre de l'argent.
Bon, à signaler aussi, et c'est une bonne claque à une idée reçue, les fonctionnaires ne sont pas plus absents que les salariés du privé.
Oui, ce sont des chiffres que l'on trouve dans l'actuel projet de loi de finances. Moins de 4% des agents de la fonction publique ont eu un arrêt de travail d'au moins une journée en 2018. Au global, ce sont en fait à peu près les mêmes chiffres que pour le privé. Et alors, en termes de durée d'absence, les fonctionnaires sont malades 8,6 jours en moyenne, soit légèrement moins que les 9 jours d'absence des salariés du privé.
Anaïs Bouissou, merci pour ce décryptage. Une nouvelle mesure pour faire face à la précarité des étudiants. Les loyers des résidences universitaires seront gelés l'an prochain. C'est ce qu'annonce le CROUS et c'était l'une des revendications des syndicats étudiants. Les calendriers de l'Avent, à moins d'un mois de Noël, c'est un énorme marché, mais on vous en présente un tout à fait inédit. L'ONG Foodwatch, qui traque les mauvaises pratiques de l'industrie agroalimentaire, dévoile ce qu'elle appelle son calendrier du vent et à chaque jour, son arnaque sur un produit, Virginie Garin.
Oui, comme cette confiture de figues pour accompagner le foie gras, 1,45€ le pot de 55 grammes. En fait, ça vous fait 26€ le kilo pour une confiture de figues tout à fait ordinaire, dit Foodwatch.
Sympa.
avec du sucre et des fruits. L'association a trouvé dans le même magasin des pots avec la même recette, 10 fois moins cher. Alors pourquoi un tel prix ? Eh bien, le pot de petite taille a été placé au milieu des foie gras, comme si c'était un produit de luxe. Vous avez aussi les perles d'œufs d'Arenka. Alors, une toute petite boîte de 55 grammes, là encore, qui fait penser à du caviar. Il s'agit en fait d'œufs de hareng fumés teints en noir avec de l'encre de sèche. 108 euros le kilo quand même. Et on termine avec une petite soupe Christelle. Un suprême de volaille aux morilles, avec sur le paquet 4 grosses morilles, qui ne représentent en fait que 0,9% du produit. La soupe est composée surtout de chourave et de champignons de Paris. Alors tout cela n'a rien d'illégal. Les ingrédients des recettes sont parfaitement écrits en tout petit sur l'étiquette. C'est du marketing trompeur, dit l'association. Vous avez 3 exemples. Il y en aura un par jour jusqu'à Noël dans ce calendrier du Vent. On pourra ouvrir sur Internet une première petite fenêtre sur le site de Foodwatch le 1er décembre.
Dimanche. Merci Virginie Garin et bon appétit. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans une dizaine de minutes. Pascal.
L'ancien élève des écoles catholiques que je suis toujours surpris de la défense du cardinal Barbarin. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un peu de compassion, qu'ils disent que l'Église, pour le moins, fait quand même des erreurs, qu'elle n'a pas accompagné suffisamment, qu'elle n'a pas ouvert les yeux, qu'elle a préservé l'institution. Et c'est ce qui choque peut-être, d'être dans cette position, de dire au fond, je n'y suis pour rien, je n'ai rien fait, et au contraire, je suis un saint quasiment. Donc j'imagine que les uns et les autres pourront réagir sur ce sujet. Et je le dis d'autant plus que j'ai fréquenté les écoles catholiques lorsque j'étais enfant et même adolescent. Autre sujet dont vous pourrez parler aujourd'hui, c'est ce drame qui ne manquera pas de faire réagir au 32-10. Le 14 septembre, une femme est décédée d'un infarctus. Vous en avez parlé, elle avait appelé le SAMU à 5 reprises. Si vous travaillez au SAMU, racontez-nous comment s'effectue cette prise en charge. Et puis, la grève, bien sûr, du 5 décembre, les arrêts maladie. Mmh. Quand vous avez un arrêt maladie, vous travaillez ?
Souvent.
Bah oui.
Vous aussi.
Bah moi j'ai. Oui.
Nous on n'est jamais malade.
Ben voilà, c'est ça. Voilà, oui. On arrive, on est malade avant, on est malade après, mais on n'est pas malade pendant. On sera ensemble pendant une heure.
Allez, à tout de suite. L'heure. Elle n'est pas en arrêt maladie, elle non plus. Patricia Charbonnier pour la météo. On profite toujours de cette douceur.
Toujours une grande douceur, surtout dans le sud. Encore des pointes à 19 degrés cet après-midi. 19 par exemple à Bastia, 18 degrés à Nice, 15 à Bordeaux et Toulouse, 14 à La Rochelle, 13 degrés à Paris et Orléans, 12 à Lille et Brest et 10 degrés à Aurillac. Mais alors côté ciel, ça ne change pas non plus. C'est toujours très instable avec des averses qui vont se déclencher un petit peu partout cet après-midi. Averses localement fortes, orageuses, toujours accompagnées de vents soutenus. C'est très instable sur la côte atlantique et puis on a une petite dégradation pluvieuse qui s'amorce pour cet après-midi. Au nord de la Seine, près de la Méditerranée, c'est plus calme. On va revoir de belles éclaircies cet après-midi, mais avec de fortes rafales de vent, notamment sur le nord de la Corse, hein, jusqu'à 110 km/h en pointe. Et donc, cette douceur jusqu'à demain. Ensuite, pour ce week-end, on attend un très net refroidissement.
C'est-à-dire, on va perdre quoi ? 5 degrés, 10 degrés ?
Entre cette semaine et la semaine prochaine, 10 degrés.
On s'y prépare. Voilà, c'est fait, c'est dit.
Merci.
Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto.
Alexandre de Saint-Aignan à suivre pour le rappel des titres.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL, il est 13h.
Le tout info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Face à la colère qui gronde chez les étudiants confrontés à la précarité, le CROUS vient d'annoncer un gel des loyers dans les résidences universitaires l'an prochain. Une décision qui intervient quelques semaines après la tentative d'immolation d'un étudiant devant un bâtiment du CROUS à Lyon. Il avait expliqué son geste par des difficultés financières. Ce gel des loyers, c'était l'une des mesures réclamées par les organisations étudiantes pour faire face à la précarité. La présidente de l'UNEF, Mélanie Luce.
Pour nous, c'est un premier pas envers les étudiants parce que ça va nous permettre de ne pas avoir d'augmentation des loyers l'année prochaine dans l'ensemble des CROUS. Et la situation est un peu compliquée puisque normalement, chaque CROUS décide du prix des loyers. Et donc, on avait constaté ces dernières années des augmentations successives des loyers dans les CROUS dues à un manque de budget des CROUS. Donc, ce gel, pour nous, c'est un premier pas, effectivement. Par contre, ça ne suffit pas parce qu'il faut, au-delà du gel, il faut baisser les loyers. Et pour ça, il faut augmenter le budget des CROUS. Et puis, pour aller plus loin, ce gel, il va nous assurer que nos dépenses de logement n'augmentent pas. Mais par contre, il ne nous garantit en aucun cas une amélioration de nos conditions de vie l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on continue de revendiquer une augmentation des bourses. C'est ça la priorité.
La présidente de l'organisation étudiante l'UNEF, Mélanie Luce, avec Éric Vanier pour RTL. La famille porte plainte pour homicide involontaire après une possible erreur du SAMU dans le territoire de Belfort. Une femme d'une soixantaine d'années morte après avoir appelé les secours à 5 reprises. Et après une heure d'attente, le médecin régulateur aurait mal interprété l'urgence de la situation alors que la victime présentait tous les signes d'un arrêt cardiaque. Il avait évoqué une gastro. Ne pas reproduire les erreurs du passé alors que le procès en appel du cardinal Barbarin s'est ouvert ce matin. L'archevêque conteste sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir gardé le silence face à une accusation de pédophilie dans son diocèse. Alors pour éviter que l'histoire se répète, le diocèse de Paris a signé un accord en septembre dernier avec le procureur. Objectif, faire remonter tous les signalements d'abus sexuels présumés sans avoir besoin de porter plainte. Un protocole qui ne concerne plus seulement la capitale. 3 diocèses ont scellé un accord avec la cour d'appel de Grenoble la semaine dernière, Alice Moreno.
Eh bien, le parquet de Paris a ouvert 3 nouvelles enquêtes en 3 mois sur la base des signalements d'infractions sexuelles transmis par le diocèse. La semaine dernière, la cour d'appel de Grenoble a à son tour passé un accord avec les évêques de 3 départements, l'Isère, les Hautes-Alpes et la Drôme. Même objectif, diocèse et parquet doivent collaborer. Jacques Dallest est procureur général de la cour d'appel de Grenoble. Selon lui, un tel accord peut éviter d'autres affaires Barbarin.
Il est indiqué à l'évêque l'intérêt qu'ils ont pour eux de communiquer très vite l'information au procureur. C'est aussi une sécurité pour les évêques pour une éventuelle mise en cause plus tard, puisque le fait de ne pas signaler à la justice une situation où la personne peut être en danger, ça peut être un délit.
Seul bémol, des infractions sexuelles qui seraient révélées dans le cadre d'une confession ne peuvent pas être transmises au parquet, car les prêtres qui reçoivent une confession sont tenus à un secret absolu.
Les précisions signées Alice Moreno du service police-justice de RTL. La zizanie à Marseille dans la course à la mairie. Les Républicains ont choisi hier de confier l'investiture à Martine Vassal au détriment de son rival Bruno Gilles, qui n'a lui été adoubé ni par le parti de droite ni par l'ancien maire Jean-Claude Gaudin. Sur RTL ce matin, Martine Vassal lui a tendu la main, appelant au rassemblement et en respectant la décision de sa famille politique. Mais pour l'instant, Bruno Gilles compte bien continuer à faire cavalier seul, coûte que coûte.
Ah non, c'est pas une posture. Moi, il y a 14 mois que je suis en campagne. Donc depuis 14 mois, je bâtis un projet participatif avec des experts, avec des groupes de travail. Je vais à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais depuis 14 mois. C'est pas pour m'arrêter au moment où le parti, 27 personnes hier soir, siffle soi-disant la fin d'une récréation. Moi, je joue pas. Depuis finalement hier soir 20h, je suis libre, je suis libéré. Je prends acte de la décision qui a été prise hier. Je le regrette, ça me touche après 40 ans de ma famille politique. Mais j'en prends acte et demain si je suis candidat, bien évidemment que pour pas mettre ce qui était mon parti en difficulté, je me mettrai ce qu'on appelle en congé de parti pour une candidature de large rassemblement qui n'a plus rien à voir avec une candidature d'étiquette de parti trop restrictif.
Au micro RTL d'Étienne Baudu, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles. Tout de suite, la météo. Job. Alors Patricia Charbonnier, on jette un œil au programme pour demain, ce sera encore bien agité.
Bien agité, bien humide, et même pendant le week-end, on a toujours cette humidité avec une nouvelle perturbation qui arrive par le nord qui donnera de la pluie demain encore sur une bonne partie du pays et de la neige sur les massifs. On attend de bonnes chutes de neige au-dessus de 1800 mètres sur les Alpes du Nord. Dans l'après-midi, on retrouvera un temps plus calme sur la côte atlantique avec le retour des éclaircies, du soleil près de la Méditerranée, mais toujours avec des vents soutenus. Et puis les températures encore assez douces pour demain, 6 à 12 degrés en matinée avec 6 degrés à Lille, 10 degrés à Bordeaux, 12 à Bastia, 8 à 20 degrés dans l'après-midi, 8 degrés seulement à Londres, 10 degrés à Paris et Cherbourg, 12 degrés à Rennes, 13 à Quimper, 20 degrés à Nice et Bastia. Mais à partir de ce week-end, on attend un très net refroidissement et la semaine prochaine, on aura des températures hivernales.
Merci beaucoup Patricia. Il est 13h05 sur RTL jusqu'à 14h. Ce sont les auditeurs qui font la pluie et le beau temps. Venez prendre la parole dans un instant. Pascal Pro vous invite à réagir sur l'actualité.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Maman,